Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, on va prendre le large pour bien commencer cette semaine avec à bord de notre réveil culturel Jean-Jacques Reff qui vient de signer une nouvelle traduction du roman de Stevenson L'île au trésor, édité par Tristram, et il sera rejoint en deuxième partie par Tristan Savin, le directeur de la rédaction de L'Encours, le numéro 9, le numéro de 7 tonnes donc, actuellement dans les bonnes librairies, sort avec un beau et passionnant dossier sur les océans et les hommes. On embarque donc avec des marins, des pirates, des explorateurs, des aventuriers. Nous sommes le 15 octobre. Merci de vous réveiller avec nous et merci à celles et à ceux qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter en différé via le podcast notamment. Aux commandes de ce réveil culturel, le capitaine et réalisateur Vincent Abouchard sur le pont, courant de partout dans un monde d'hommes et de forbans. Corinne Amar à la coordination et à la salle des machines, à la prise de son donc, Bernard Laniel. Allez, enlève l'encre, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Jean-Jacques Reff.
Bonjour.
Le polytechnicien que vous êtes a exercé longtemps le métier de journaliste. Vous êtes par ailleurs écrivain, notamment pour la jeunesse. Vous êtes par ailleurs un grand voyageur. C'est d'ailleurs en randonnée dans les Cévennes, sur les traces de Robert Louis Stevenson, que vous est venue l'idée de relire en version originale L'île au trésor. Et puis, par curiosité, vous vous êtes dit, tiens, ici on allait voir les traductions en français. Et là, vous vous êtes dit, il faut absolument revenir avec une nouvelle traduction. Que change cette nouvelle traduction au livre qu'on a lu enfant ?
Quand j'étais dans les Cévennes, d'une certaine façon, comme je suivais les pas de Stevenson qui a fait une randonnée dans les Cévennes avec un âne, une ânesse.
Pas vous, hein ?
Non. Moi, c'était sans ânesse. Et j'ai eu envie de... D'abord, j'ai lu le livre qu'il a écrit sur son voyage dans les Cévennes. Et puis, j'ai eu envie de relire L'île au trésor, que je n'avais pas lu depuis très longtemps. Et là, j'ai vu que c'était un livre qui contenait des passages où l'anglais est utilisé de façon particulière. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez couramment dans la littérature anglaise. C'est qu'on traduit les manières de parler des gens. Et en Angleterre, c'est souvent les classes sociales, parce que les gens s'expriment de façon différente selon les classes sociales. On traduit ça par, disons, la grammaire et l'orthographe. Donc Dickens était un grand spécialiste de ça, il faisait ça très très bien. Et j'ai découvert, en lisant L'île au trésor, parce que je l'ai lu en anglais, parce que je lis en anglais, que Stevenson faisait ça. Alors, j'avais lu le livre quand j'étais enfant, et j'ai pas fait attention. Je me suis pas dit, est-ce que la traduction est juste ou pas juste? Je l'ai lu en français. Mais quand je l'ai lu en anglais, je me suis dit, tiens, c'est un de ces livres où la langue est triturée par l'auteur en anglais.
Voyons voir ce que ça donne en français.
Je sais que ça se fait pas en français, que les traducteurs le font pas, et que Dickens, je pense qu'il est mal traduit, et de même, mettons Mark Twain qui fait ça aussi, il était mal traduit. Et donc, je me suis dit, je vais traduire L'île au trésor comme ça devrait être traduit, c'est-à-dire que les pirates y parlent mal. Pas seulement parce que ce sont des pirates, parce que ce sont des gens du peuple. Et donc, ils parlent avec un parler populaire. C'est pas exactement de l'argot, c'est plutôt un langage que Stevenson a réinventé lui-même, a inventé en changeant des mots, en inventant des mots. Par moments, ça ressemble un peu à la manière dont les enfants parlent. Vous voyez, par exemple, en anglais, pour dire demander quelque chose, on dit ask. A-S-K. Mais les pirates, ils disent axe au lieu de ask. Vous voyez, comme... Si en français, au lieu de dire « on court un risque », on dit « on court un rix ». Mais les enfants font ça. Parce que les pirates, ils parlent comme des enfants.
D'accord.
Vous voyez, c'est comme des grands-enfants, un petit peu. C'est à la fois des voyous, des gens peu éduqués, et un peu aussi comme des grands-enfants qui réfléchissent pas beaucoup, ils connaissent pas bien le langage, etc. Et donc, du coup, j'ai regardé si c'était fait ou pas dans les traductions existantes, et pas du tout. Mais c'est habituel. Les traducteurs, dans l'ancien temps, mais même encore maintenant, c'est comme s'ils ne voulaient pas écrire du mauvais français, de peur que leur professeur leur mette des croix rouges dans la marge, vous voyez, en disant là, incorrect, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Faute, là, mauvaise orthographe. Donc, ils ne le font pas. C'est très frappant. Donc, je l'ai fait. Et, en vérité, j'ai fait ça il y a quelques années, mais très récemment, j'ai vu qu'un éditeur qui s'appelle Tristram avait publié une traduction de Huckleberry Finn de Mark Twain, où justement, il y a du langage très particulier, Et c'est le langage que parle le compagnon noir de Huckleberry Finn. Donc il parle un anglais spécial où Mark Twain essaye de reproduire la manière dont les Noirs du Sud parlaient à ce moment-là. Eh bien, c'est pas une question de reproduire, il faut réinventer quand on traduit ce genre de langage. Et donc ils ont publié une traduction récemment donc de Huckleberry Finn. Et je me suis dit, ça c'est peut-être des gens avec qui je pourrais m'entendre. Et j'ai envoyé ma traduction. Ça leur a plu.
Pour être précis, Jean-Jacques Greff, si j'ai bien compris, Stevenson réinvente une langue des pirates.
Oui.
Le traducteur, forcément, mm-hmm. en traduisant, va essayer, non pas d'adapter, mais d'inventer.
Ah oui, il faut inventer un peu. Faut chercher des équivalents. Oui, c'est amusant. C'est amusant à faire. C'est stimulant et amusant à faire.
Les autres traductions, est-ce qu'elles tenaient pas compte du lectorat? Parce que très longtemps, d'ailleurs même aujourd'hui, L'île au trésor est considérée comme un livre pour la jeunesse, même s'il est lu par tout le monde et que c'est un classique du roman d'aventure.
C'est une question délicate, parce que c'est un livre qui date de à peu près 1880. Mais la langue... Alors, les pirates, ils parlent, peut-être ça peut amuser les enfants. Quand c'est pas les pirates qui parlent ou quand il y a des descriptions... Alors, c'est un enfant qui raconte l'histoire dans l'ensemble. Donc ça parle de façon assez simple. Mais au moment où j'étais en train de traduire, j'ai rencontré une dame américaine qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Alors j'ai dit « Je traduis L'île au trésor ». Elle m'a dit « Ah, mais j'ai essayé de le lire à ma fille, mais j'ai trouvé que c'était difficile même pour moi ». Vous voyez, donc pour une personne américaine d'aujourd'hui, ça peut être difficile même pour un adulte. C'est une langue assez soutenue. Surtout dans d'autres livres, c'est vraiment un grand styliste. Ça peut être difficile à lire, difficile à traduire. C'est quelqu'un qui a un style magnifique. Et ça se ressent un petit peu moins dans L'île au trésor, parce que c'est un enfant qui raconte. Mais dans d'autres livres, c'est très, très frappant. C'est un auteur extraordinaire qui était très, très apprécié de son vivant, surtout par ses collègues, par des gens comme Henry James, par exemple. Et il a été un peu abandonné après sa mort. Et puis, son aura est remontée. Par exemple, le cinéma a beaucoup aimé non seulement L'île au trésor, il y a eu pas mal de films, mais Dr. Jekyll et Mr. Hyde surtout, parce qu'on fait des transformations d'un personnage. Le cinéma aime beaucoup ça. Et donc il est revenu un peu sur le devant de la scène. Mais il y a quand même beaucoup de ses livres que, honnêtement, on ne lit plus, parce que les histoires ne sont pas aussi passionnantes que L'île au trésor. C'est quand même écrit de façon extraordinaire. Vous voyez, mais la manière dont il écrivait les livres, c'est pas le seul auteur, c'est que il partait de ses rêves. Oui, il avait un rêve intéressant, alors il notait, puis il dit tiens, je vais faire un livre avec ça. Ou il partait d'une idée qui lui venait. Alors il a écrit un livre, est-ce que c'est celui, je l'ai là, Where of Hermiston. Il a rencontré, à l'époque les Anglais allaient beaucoup en Inde, il a rencontré des Indiens à Londres, donc des Indiens de l'Inde. Et puis comme il est beaucoup allé en Amérique, il a peut-être vu ou entendu parler des Indiens d'Amérique, il s'est dit, tiens, je vais faire une rencontre entre des Indiens de l'Inde et des Indiens d'Amérique. Et puis, il a lu dans le journal, c'était un truc très à la mode à son époque, hein, à vrai dire, qu'il y avait quelqu'un qui avait été enterré alors qu'il était encore vivant. C'était une crainte de cette époque-là, oui, une sorte de fantasme. Bon. Et il s'est dit, tiens, je vais faire aussi, là-dedans, je vais mettre ça, c'est formidable de mettre ça. Il a écrit comment il faisait ses livres. Il voulait qu'il y ait des scènes, comme aujourd'hui, on dirait comme au cinéma, des scènes successives, et il voulait qu'on se souvienne de certaines scènes, que c'est ça, quand il y a des scènes marquantes, ça fait un bon roman.
Ça vous a aidé pour la traduction? Autrement dit, Jean-Jacques Greff, faut-il lire toute l'œuvre de Stevenson pour pouvoir traduire L'île au trésor?
Pas du tout. J'ai lu le reste de Stevenson à cause de vous, parce que on va m'interviewer, faut que j'ai pas l'air d'un idiot, je vais travailler mon sujet. Donc c'est récent que j'ai lu tout ça. Donc il y a certains livres qui sont quand même assez bizarres et pas loin d'être aussi bien, mais toujours magnifiquement écrits. C'est un plaisir de le lire, quoi.
Alors pour revenir à votre traduction de L'île au trésor, j'ai eu un plaisir fou à lire votre traduction du
merci,
coup,
merci.
Jean-Jacques Greff. Mais sauf que je suis adulte et je me suis tout de suite posé la question, est-ce que j'aurais eu le même accès à L'île au trésor, si j'avais eu ce texte en bibliothèque verte, tel que je l'ai lu quand j'avais 14 ans.
Oui. Alors,
donc, parce que les dialogues, il faut s'accrocher quand même.
Non. Alors donc, il est sûr, il faudrait que je retrouve un texte de la bibliothèque verte. C'est sûr que c'était simplifié.
C'était même le principe.
Oui, hein. Oui, oui. Alors, donc là, j'ai un texte de...
Oui, il est coupé.
Oui. Alors, L'île au trésor, dans une édition déjà un peu ancienne, livre de poche jeunesse, là, vous voyez, c'est le texte intégral quand même. Mais mal traduit, mais enfin, non, je ne veux pas dire du mal.
Mais diriez-vous, Jean-Jacques Greff, que votre traduction s'adresse à un public connaisseur, adulte, ou peut aussi bien s'adresser aux enfants ?
J'ai écrit pas mal de romans qui sont censés être pour la jeunesse ou pour les jeunes adultes. J'ai un éditeur qui s'appelle L'École des loisirs. Et on me posait toujours ce genre de questions quand j'allais dans un salon du livre ou même dans les collèges où je suis allé beaucoup. Et j'ai toujours dit, un bon lecteur, c'est un bon lecteur, quel que soit son âge. Donc, certains de mes livres dits pour la jeunesse étaient quand même assez difficiles. Et j'ai rencontré des lecteurs de 8 ou 9 ans qui venaient me faire signer le livre. Et je me disais, tiens, pas mal. Et il me semble que moi-même, quand j'étais jeune, je me suis mis à lire assez jeune des livres dits pour adultes. Si vous avez un enfant, ma fille, quand elle avait, 12, 13 ans, elle s'est mise à lire Balzac, je vais pas taper sur les doigts en disant non, c'est pas pour ton âge. On est content, au contraire. Mais d'un autre côté, il y a des tas d'adultes qui ne peuvent pas lire même un livre pour la jeunesse. Un livre pour enfants.
Jean-Jacques Greff, mis à part les dialogues des pirates que vous avez retravaillés pour cette nouvelle traduction de L'île au trésor, est-ce que vous avez changé autre chose ?
Je crois que vous connaissez la réponse. J'ai changé le fait que je ne mets pas de passé simple. Parce que Stevenson, il écrit son livre, il utilise le passé anglais, qu'on appelle, je crois, techniquement le prétérit. Enfin bon, un passé anglais qu'on utilise encore aujourd'hui de la même manière, en langage écrit, en langage parlé. Et donc le livre, il n'a pas un côté vieillot. Enfin, certaines phrases sont difficiles, mais en dehors de ça, il n'a pas un côté vieillot. Mais quand on lit un livre d'aujourd'hui avec du passé simple, ça fait tout de suite un petit peu vieux, parce que ce n'est pas du langage parlé. Tandis que dans Stevenson, il écrit en langage parlé, il n'y a pas de différence. C'est la manière dont on parle encore aujourd'hui, c'est la même manière.
C'est la grande année des grandes traductions, que l'année 2018, après George Orwell. Vous avez sans doute entendu José Camoudre expliquant, d'ailleurs elle-même, en changeant, en revenant au présent et en laissant le passé des anciennes versions, a donné un souffle nouveau, un souffle qui fait vraiment très très peur. C'est-à-dire maintenant relire avec cette nouvelle traduction 1984, on pense à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. On va voir comment Kafka va être retraduit. Est-ce qu'il faut retraduire tous les grands classiques, les 50, 60, 70 ans, d'après vous, Jean-Jacques Greff ?
Oui, c'est une évidence.
Pourquoi ?
Pour
que ça nous parle à nous de gens du présent.
Est-ce que vous lisez Don Quichotte dans une traduction de l'époque ? Vous voyez, c'est très difficile. C'est de l'époque de Montaigne. Donc, on peut-être lire une traduction de l'époque de Don Quichotte, mais c'est difficile. Ou des textes plus anciens, ça va être encore plus difficile. Vous voyez, par exemple, vous pouvez lire un livre qui, en français, s'appelle le dit du Genji. C'est Genji Monogatari. C'est le grand roman classique japonais qui date du XIe siècle. Alors, vous pouvez le lire dans la traduction française ou dans une traduction anglaise. Il y en a des très, très bonnes, c'est un peu mieux. Et puis, vous allez au Japon et vous dites « j'aime beaucoup le Genji Monogatari ». Les gens, ils vous regardent avec gros yeux ronds. C'est comme si un Japonais arrive en France, il dit « oh, j'adore la chanson de Roland, je la relis tous les ans ». Vous voyez, mais personne ne fait ça ici. Oui, donc bien sûr qu'il faut refaire les traductions.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Nous sommes donc avec Jean-Jacques Rêve qui a signé une nouvelle traduction de L'île au trésor de Stevenson chez Tristram et avec Tristan Savin, donc directeur, rédacteur en chef de la revue Lancourt, qui reprend d'ailleurs un chapitre de L'île au trésor que vous publiez dans le dernier numéro.
Nous en sommes très fiers.
Et un grand dossier sur des océans et des hommes et une nouvelle inédite de Mélisse de Kerangal. Fille, petite fille de l'alligator moderne et même
de capitaine au long cours, tout simplement.
Et même épouse. Alors, ce qui me permet de vous poser à vous deux la question à propos de L'île au trésor, donc ce grand classique écrit à la fin du 19e, qui a traversé tout le 20e siècle en étant l'ultime référence du roman d'aventure. Comment on pourrait le lire aujourd'hui, au 21e siècle, alors qu'on a tout exploré, qu'on connaît toutes les îles les plus éloignées, les plus perdues, que la planète ne représente pour nous aucun mystère et qu'on est en train de la malmener? Est-ce que le roman d'aventure est à réinventer, Jean-Jacques Greffet? Ouais.
Je suis sûr que dans votre vie, vous avez eu des aventures. Moi, je me suis promené, je suis allé en Inde en autostop 2 fois. Donc, c'est des aventures. C'est pas la même aventure que les pirates. Je suis allé en Inde et puis je suis allé au Japon. Je suis arrivé à Bangkok, c'était en 67, oui. Et je suis arrivé au Japon, puis je suis rentré par la Russie. À l'époque, c'était la façon de faire parce que les avions coûtaient très cher. Alors, on prenait le bateau de Yokohama jusqu'à un endroit qui s'appelait Narodka, ensuite un train jusqu'à Khabarovsk, et ensuite on prenait l'avion de Khabarovsk en Sibérie orientale à Moscou. Pour une somme modique, on pouvait faire escale à Irkoutsk. Moi, j'ai dit, bah oui, Irkoutsk, Michel Strogoff. Vous voyez, pour moi, évidemment, l'aventure, c'était aussi Jules Verne, Michel Strogoff.
Donc, voilà. Sur les traces d'eux.
Oui, sur les traces. Donc, on peut encore aller se promener à Irkoutsk. Personne ne vous en empêche. Vous pouvez y aller. Il y a des gens qui y vont à vélo. Vous pouvez aller à vélo à Irkoutsk. Il y a des gens qui le font en ce moment. Des aventures, on peut en avoir tant qu'on veut.
Tristan, ça va, hein.
Personnellement, je pense quand même que les gens partout dans le monde ont besoin de ça. C'est une question de besoin. C'est l'aventure, c'est à la fois du mystère, c'est du merveilleux. C'est pas seulement se donner des coups de poing dans un bar, quoi. C'est.
Mais est-ce que c'est relire indéfiniment Stevenson ou on
pas
peut...
forcément. Mmh. Nous dans Lancourt, on s'intitule entre guillemets la revue des écrivains voyageurs. Donc nous, notre propos, c'est de donner la parole à des écrivains qui sont des aventuriers, des gens de terrain, comme j'aime dire, aussi bien des grands reporters pas blasés, notion importante, des gens qui sont tout le temps sur le terrain et qui nous racontent leurs aventures. Et l'intérêt, c'est pas seulement l'aventure en soi, c'est la façon dont on la raconte. Le succès de Sylvain Tesson, vous le savez, c'est son style, c'est sa verve, c'est son lyrisme. Là, on a la chance de publier un récit de voyage de Jean-Christophe Ruffin qui est parti dans les montagnes d'Oman. Il vous raconte son séjour à Oman. Il vous embarque tout de suite. Il vous emmène parce qu'il a son style à lui. Ce qui fait la différence pour nous entre un simple journaliste de desk, c'est-à-dire celui qui ne sort jamais de son bureau, le pauvre, et celui qui va sur le terrain, c'est que vous rencontrez des gens, vous avez des antennes, vous êtes ouvert au monde, vous avez les yeux grands ouverts, et quand vous racontez ça et que vous avez du style, le lecteur est aussitôt embarqué. C'est ça la littérature, tout simplement.
La littérature d'aventure, de voyage, de découverte, d'explorateur, ou pour reprendre le terme de Tristan Savin, les écrivains voyageurs.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais Stevenson, pour moi, est le premier des grands écrivains voyageurs, avec Herman Melville aussi. Ce sont un peu dans le Panthéon, ce sont les grands maîtres, les grands dieux de la littérature voyageuse. Stevenson, c'était quand même un voyageur, un vrai voyageur. on s'en souvient peut-être peu, sauf les spécialistes, mais les premiers voyages de Stevenson, c'était en France. Avant son voyage, vous en parliez tout à l'heure, dans les Cévennes, était parti en kayak sur les rivières du Nord, sur la Sambre, l'Oise. C'était une véritable aventure à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, avec le casque en plastique, le club et les ceintures de sauvetage. C'était une véritable aventure. Et pour un Écossais partir dans le nord de la France et de la Belgique, c'était une véritable aventure. Il a été toute sa vie aventurier, Stevenson. Quand il est parti en bateau, il a fait tout le tour du Pacifique. Il a fait toutes les îles du Pacifique, et aussi bien la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, Hawaï. Aujourd'hui, ça serait très peu de gens arrivent à le faire. Il est parti, d'ailleurs, il est mort.
Quand il dit très peu de gens arrivent à le faire, quand Tristan Savin dit ça, comment vous l'entendez, Jean-Jacques Greff?
Alors, c'est vrai que, à l'époque de Stevenson, il y avait moins de romans qui se passent sur une autre planète ou ailleurs dans l'univers qu'aujourd'hui. Il y en a peut-être moins maintenant aussi qu'il y a quelques années.
Il y avait Jules Verne déjà. Dans pas mal
ça
de
commence,
planètes.
Ça commence à cette époque-là. Maintenant, on a beaucoup d'aventures dans les films. C'est quelque chose que Stevenson n'a pas connu, bien qu'il raisonnait un peu en scénariste quand il disait « il faut des scènes dans mes romans ». Mais donc aujourd'hui, on vit des aventures de tous les côtés. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas, moi j'ai un fils au Japon, on fait du Skype et on va à l'autre bout du monde de manière instantanée.
Mais sans laisser de traces, sans laisser de livres, alors que...
Oui, mais on peut... Je lui rends visite et puis je pourrais aussi écrire des choses là-dessus. Alors, j'ai pas en tête, évidemment, là, vous posez une question, il faudrait faire une recherche pour savoir s'il s'écrit encore beaucoup de livres d'aventure de la même veine que les livres du 19e siècle. Mais dans l'ensemble, la littérature est plus la même. Mais maintenant, il s'écrit... Donc, il y a des films qui ont une écriture aventureuse. Il y a des bandes dessinées. Vous voyez, moi, j'étais plutôt, en tant que... Quand j'étais jeune, j'étais plutôt la génération Tintin. Vous voyez, donc, Tintin, c'est de l'aventure. Et puis, ensuite, il y a eu d'autres... Vous faites une émission sur les bandes dessinées tous les vendredis. Donc, il y a des dessinateurs, des auteurs de bandes dessinées qui racontent des aventures. Ça se fait encore. Et puis, moi, je dirais surtout les films. Et il y a des films magnifiques qui sortent de l'orbite terrestre et qui racontent des très, très belles aventures. Je ne parle pas seulement de la guerre des étoiles.
Merci Jean-Jacques Greff. Et pour terminer, Tristan Savin, vous qui êtes à la tête de l'Encours, il n'y a pas seulement des journalistes qui participent à cette revue.
D'ailleurs, ce sont essentiellement des écrivains, en fait.
Mélisse de Kerangal, est-ce qu'elle réinvente ce genre?
Mélisse de Kerangal, comme je le disais tout à l'heure, elle fait partie de ces gens qui ont un style, elle a un souffle. Là, elle nous a fait l'honneur, alors qu'elle est quand même très occupée, de nous écrire une nouvelle totalement inédite, qui s'appelle Un télégramme. Je ne vais pas dévoiler l'intrigue, parce que dans les nouvelles, tout est dans la chute, mais elle s'est inspirée pour cette nouvelle des débuts de son propre père dans la marine marchande. Et elle vous embarque tout de suite. Moi, quand elle me l'a envoyé, je l'ai lu instantanément. Dès les premiers mots, vous êtes embarqué, vous pouvez pas vous arrêter de lire, quoi.
Comment vous les choisissez?
C'est pas donné à tout le monde.
Vos auteurs, qui soient écrivains ou journalistes, il faut d'abord que vous sachiez que ce sont des grands voyageurs.
C'est pas parce qu'il y a des grands voyageurs qui savent pas écrire, tout simplement. Moi, je suis très subjectif. Je choisis des gens que j'aime, tout simplement, que j'aime lire, dont j'aime le talent, et après surtout on les choisit par rapport à un sujet, par rapport à une thématique. Là, c'est un numéro consacré à la mer et aux océans. On a fait appel à Olivier Frébourg, qui est lui aussi un fils de capitaine au long cours et qui fait partie des écrivains de marine. Et il nous raconte, et c'était une histoire assez peu connue, en fait, le club des écrivains de marine, dont font partie beaucoup d'écrivains aujourd'hui célèbres. Mais c'est un club de passionnés, tout simplement.
Et enfin, pour terminer, est-ce que, comme Jean-Jacques Greff, il vous arrive de faire des voyages sur les traces de quelques auteurs célèbres?
Je l'ai fait toute ma vie, en fait.
Oh, oui.
Ouais, j'ai tenu longtemps une chronique dans un magazine qui s'appelle Lire. J'ai une chronique qui s'appelait L'Esprit des lieux, et j'ai eu la chance de voyager pendant très longtemps. Enfin, je voyage tout le temps, en fait. Je suis grand reporter à la base, et je suis toujours parti sur les traces d'un auteur, que ça soit sur les traces d'Hemingway à Cuba ou autre. Enfin, je pourrais vous en citer plein. Je suis allé d'ailleurs à Édimbourg bourre sur les traces de ce cher Stevenson.
Votre prochain voyage ou projet de voyage?
J'hésite encore entre la Corée du Nord ou du Sud, je ne sais pas encore.
Et enfin, Jean-Jacques Grève.
Je veux juste dire une petite chose, c'est qu'on peut aussi écrire des magnifiques romans d'aventure sans voyager. On a parlé de Jules Verne.
Et on peut même parler de Hergé.
Hergé aussi, oui. Et Stevenson, il y a un livre qu'il aimait beaucoup, qu'il cite souvent, c'est Robinson Crusoe. Et c'est un auteur, bon, il a raconté un voyage qui ressemble, c'est une île déserte. L'île au trésor cite Robinson Crusoe et il y a des points communs. Daniel Defoe, il n'est pas allé.
C'est le livre préféré de Jules Verne d'ailleurs.
Oui, bah oui.
Et votre prochain voyage pour terminer, Jean-Jacques Grève?
Je crois que je vais aller voir mon fils et j'ai un petit-fils
au Japon.
Au Japon, voilà.
On l'a bien suivi. Bon vent à vous, merci d'être passé ce matin.